Les arbres qui poussent dans nos régions tempérées sont rythmés par les saisons. Ils nous fascinent par leur présence et nous étonnent par leur longévité. Les biologistes spécialistes des arbres connaissent aujourd'hui de mieux en mieux les mécanismes à l'origine de leur croissance, des liens avec les organismes qui les entourent et de leur capacité à communiquer avec leur environnement. À la fois filtre à air et usine carbochimique, la vie d'un arbre permet d'exploiter un monde foisonnant qui s'exprime au quotidien juste sous nos yeux. Mais finalement, qu'est-ce qu'un arbre? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir avec vous, Catherine Laine, bonjour.
Bonjour.
Au cours des deux émissions que nous consacrons aux arbres, vous êtes botaniste dans un laboratoire INRAE et UCA qui s'appelle le PIAF, c'est le laboratoire physique et physiologie intégrative de l'arbre en environnement fluctuant. Vous êtes aussi enseignante-chercheuse en biologie végétale à l'université de Clermont-Auvergne de Clermont-Ferrand. Et donc, vous publiez cet ouvrage Dans la peau d'un arbre, secret mystère des géants qui nous entourent chez Belin. On vous retrouve dans un instant. On a plein de questions déjà à vous poser avec les messages également des auditeurs qui nous rejoignent sur franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. Camille Cronier, bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
14h30 au Passau Vert.
Et à cheval Mathieu, enfin non, en avion, ceux qui transportent des chevaux vivants pour être transformés en sushi, oui, en sushi au Japon.
14h45, nouveau reportage de Maxime Carcel dans le Cosméjan, dans le parc des Cévennes, qui est le seul parc national à être peuplé de manière permanente. Nous ferons la rencontre aujourd'hui. Aujourd'hui avec un berger pour ce deuxième volet. Et puis dans la chronique de reporter, le quotidien de l'écologie, Alexandre Reza-Kokabi nous parlera des aires d'accueil pour les gens du voyage qui, vous le verrez, sont la plupart du temps situés dans des environnements pollués. Voilà pour le sommaire de cette émission réalisée par Valérie Ayestaraï, préparée aujourd'hui par Chantal Lemontagny avec à la technique Clément Vuillet.
Mathieu Vidard, la Terre au carré. Sur France Inter.
Les arbres, pour moi, c'est la manifestation de la vie que je trouve la plus sympathique. Ce sont les plus grands êtres vivants, de très très loin. Énormes. Les baleines, c'est tout petit à côté. Regardez comme c'est beau ce jardin. Moi, j'aime bien les arbres parce qu'ils sont très discrets. Ils font leurs choses. Et c'est à nous de les remarquer.
Voilà la voix de Francis Allais, extrait de cette vidéo de la Fondation Cartier, Nous les arbres, et c'est lui d'ailleurs qui préface votre ouvrage, Catherine Laine, Dans la peau d'un arbre, qui paraît aux éditions Belin. D'ailleurs, il écrit lui-même, il vous en veut pas parce que vous ne parlez pas des arbres des régions tropicales, hein, qui sont ses arbres chéris d'ailleurs, Francis Allais.
Voilà, il a raison, parce que c'est vrai que la majorité des arbres sont plutôt dans les régions tropicales, mais moi je voulais faire un livre sur l'arbre de chez nous, si j'ose dire. Donc l'arbre qu'on peut voir en allant travailler ou en allant se promener.
Donc ces régions tempérées et méditerranéennes, hein.
Alors oui, puisque notre France métropolitaine est un carrefour climatique formidable et qu'il y a aussi des espèces adaptées au climat méditerranéen chez nous.
L'arbre de chez nous, ça serait lequel si on devait en choisir un alors?
Oh ben je dirais peut-être le chêne, c'est celui qui est un petit peu dans toutes les régions. Le hêtre aussi, bien qu'il recule. Et puis, on a pas mal de résineux. Alors après, est-ce que on peut prendre le Douglas, qui est un arbre de plantation? Alors, on va fâcher beaucoup de monde.
Vous allez faire des mécontents.
En même temps, je trouve que c'est un très bel arbre.
Oui. Et vous, votre arbre de prédilection, votre arbre de cœur, si je puis dire?
Alors moi, c'est le hêtre, hein, parce que je viens d'une région où le hêtre est majoritaire dans les forêts montagnardes d'Auvergne. Donc, je choisirais le hêtre.
Combien il y a d'espèces recensées sur la planète? On le sait exactement?
On le sait depuis assez peu de temps. Il y a une étude qui est parue en 2017 et qui fait état d'un peu plus de 60 000 espèces d'arbres. Mais la difficulté étant toujours de savoir de quoi on parle. C'est-à-dire, effectivement, qu'est-ce qu'un arbre?
Exactement. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est ce que vous expliquez, c'est qu'il faut faire attention à la façon dont on interprète aussi ce qu'on entend au sujet des arbres, parce que chaque arbre est un petit peu unique et au fond, la science ne peut pas généraliser ce qu'elle apprend.
C'est vrai. Voilà, c'est ce que je dis dans l'introduction, en avertissement un petit peu, parce que quand on lit des choses sur les arbres, on a l'impression qu'on sait tout sur les arbres. En fait, on sait beaucoup de choses sur quelques modèles. Et puis, on interprète des choses sur d'autres arbres. Mais on ne sait pas tout sur les 60 000 espèces d'arbres, loin de là.
Ouais. Et est-ce que pour les scientifiques, il y a vraiment des arbres modèles qui sont les arbres qu'on étudie sur le terrain ou en laboratoire?
Oui, tout à fait. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un modèle, un arbre modèle ou une plante modèle? C'est une plante ou un arbre sur lequel on a des outils, où on peut construire des outils. Et par exemple, nous, au laboratoire, l'arbre modèle, c'est le peuplier. parce qu'il pousse vite, parce que on connaît bien son génome, on a des banques d'outils pour l'étudier en fait.
Donc ça permet d'expérimenter vraiment ou voilà. D'avoir une observation au long cours sur plusieurs générations d'arbres
oui,
aussi.
Oui, absolument, et il est facile à cloner hein, à multiplier, donc il est facile à produire dans un laboratoire.
Ouais, cette popularité des arbres. Alors parce que vous dites hein, vous-même d'ailleurs, c'est encore un livre finalement oui. sur les arbres. D'abord, qu'est-ce qui distingue le vôtre Catherine Laine alors ?
Il est beau, non ?
Il est scientifique surtout, non ?
Oui, il est d'abord scientifique et ensuite il est beau.
Ouais.
Donc il est scientifique parce que j'ai voulu effectivement mettre dedans les dernières connaissances.
Ouais.
Et en même temps aussi d'ailleurs tout ce qu'on appelle les fronts de science sur les arbres, c'est-à-dire les connaissances qui ne sont pas encore bien stabilisées, les savoirs qui sont en construction. Et dire, bah, attention, on lit que les arbres parlent entre eux, les arbres s'entraident, des choses comme ça. Qu'est-ce qu'il en est exactement ? Qu'est-ce que la science a prouvé ? Qu'est-ce qu'il lui reste encore à montrer ?
L'arbre est quand même très tendance. Hein. On entendait au début de l'émission une exposition sur les arbres, donc il y a beaucoup de livres
oui,
sur les arbres.
C'est la grande mode.
Mais pourquoi ?
Ah ben ça c'est formidable.
Les gens se prennent de passion pour les arbres.
Oui.
On voit de plus en plus sur le terrain des gens mobilisés pour défendre des arbres.
Oui, pour éviter des abattages.
Ce qui se passe.
Oui, bien sûr. C'est formidable. Moi, je trouve que c'est un bel élan de l'humanité.
Bien sûr, mais d'où vient cette mode de l'arbre ?
Alors d'où elle vient ? Je pense que on est en train de revenir de ce manque de nature. Qui est le nôtre, la majorité de la population humaine sur Terre vit dans les villes. Et maintenant, on se rend compte qu'on s'est coupé de la nature et que c'est cette nature qui nous sauvera et qui sauvera la planète.
Puis ça, c'est de la nature solide, enracinée.
Alors c'est ça, c'est-à-dire qu'on revient vers quelque chose dans lequel on peut s'identifier. Mathieu, est-ce que vous vous êtes déjà pris pour un navet ou une betterave ?
Rarement, ça peut m'arriver pour les soirs de déprime, enfin.
Peut-être que vous auriez envie d'être réincarné dans un grand chêne,
un beau séquoia,
voilà.
Ou un grand baobab.
Donc c'est vrai que les arbres nous ressemblent, entre guillemets, ou nous ressemblons aux arbres, en ce sens que ce sont des êtres érigés, élevés, qui ont une certaine pérennité, alors qu'un navet ou une betterave, on aura peut-être moins de respect. Et pourtant... Le navet, la betterave et le chêne, c'est même combat. Hein,
il y a même des personnes qui encouragent à aller faire des câlins,
oui.
Ce qu'on appelle, je crois, la sylvothérapie, des câlins aux arbres, etc.
Alors, tant que la personne en question ne fait rien payer, moi, je trouve ça très, très bien.
Mais
à partir du moment où on va vous faire payer votre bain de forêt, méfiez-vous.
Oui, là, il faut se méfier. Oui. Mais est-ce qu'il y a eu des périodes où, au contraire, peut-être l'arbre était mal aimé, parce qu'il y a un capital sympathie de l'arbre, un capital fascination. Est-ce qu'il y a eu des périodes dans le temps où, au contraire, on détestait les arbres?
Alors, je sais pas bien répondre parce que c'est pas tellement dans mes compétences, mais par contre, en réfléchissant rapidement, l'arbre quand même nous a toujours fourni des choses utiles, de l'ombre, du petit bois, du feuillage pour le bétail, de l'ombre pour nos troupeaux, etc. Donc, on a quand même toujours respecté les arbres. Par contre, on a beaucoup défriché aussi nos forêts pour installer nos villages, nos bourgs, puis nos villes, construire nos cathédrales, etc. Donc, on a beaucoup utilisé l'arbre. Mais il n'a jamais été un mal-aimé, du moins à ma connaissance.
Je sentais poindre quelques critiques dans vos propos tout à l'heure lorsque vous parliez justement des ouvrages sur la communication des arbres. On pense à Peter Wohlleben, hein, qui a vraiment eu un grand succès éditorial.
C'est vous qui l'avez dit, Mathieu.
Voilà, c'est ça, mais j'ai lu dans votre pensée, j'imagine. Non, mais est-ce que du coup ça a été trop vulgarisé, sa façon de concevoir la communication ?
Le livre de Peter Wohlleben, il est extraordinaire en ce sens qu'il a permis... c'est l'un des premiers qui intéresse, alors je dis pas les premiers parce que Francis Allais, il a écrit des livres formidables sur les arbres avant. Mais celui-là, c'est vrai qu'il est très populaire, il a été traduit dans beaucoup de langues, donc il a le mérite de faire que les gens s'intéressent aux arbres. Donc ça, extraordinaire. Par contre, c'est un livre, c'est un conte. C'est un très joli conte philosophique sur les arbres.
Il n'y a pas de science ?
Si, il y a de la science, c'est-à-dire qu'il y a des faits de science sur lesquels ensuite on a des interprétations et de l'anthropomorphisme très marqués. Et moi, en tant que scientifique, ça me gêne beaucoup. Et d'autre part, aussi dans mon livre, j'ai voulu que toutes les références bibliographiques soient présentes. Alors, bien sûr, les gens n'iront certainement pas les lire, mais c'est pas très grave.
Il y a toutes les à toutes les lignes, quasiment. On a un petit numéro qui renvoie, effectivement.
Voilà, c'est ça pour dire. Ce que je dis là, c'est pas moi qui l'ai inventé.
Ouais.
C'est une publication qui a été validée par les pairs, c'est-à-dire par les collègues, par la communauté scientifique. Donc, on peut faire confiance à cette publication jusqu'à ce que quelqu'un montre le contraire.
Et votre don, votre qualité, moi je trouve, c'est vraiment de savoir raconter justement ces publications scientifiques de façon hyper agréable à lire, parce que c'était aussi votre pari. Donc, c'est faire de la bonne vulgarisation basée vraiment sur de la science.
Ça.
Alors, des questions des auditeurs, il y en a
plein.
Déjà
une salve, alors. Voilà. Je vous en fais deux d'un coup, puis je ferai les autres après. Nicolas qui nous demande comment reconnaître un arbre à partir de ses feuilles.
Ah. Alors, effectivement, on peut reconnaître assez facilement les arbres à partir des feuilles. Et il y a des clés de détermination pour trouver les noms de ces arbres. Et donc là, juste un conseil simple, c'est sur Internet, il y a deux clés, une clé pour les feuillus, une clé pour les résineux, publiées par l'ONF. Elles sont téléchargeables sur le site de l'ONF.
L'Office national des forêts.
Et pour commencer, pardon, oui, l'Office national des forêts. Et pour commencer, c'est bien d'utiliser ces clés, elles sont simples.
Deuxième question, Laurence, quel est l'arbre qui pousse le plus vite ?
Alors, l'arbre qui pousse le plus vite, ce sont souvent des arbres pionniers qui vont s'installer dans des terrains ouverts. Alors, je pense par exemple au bouleau, au peuplier, ça pousse vite. Mais par exemple, l'élante, qui est un arbre d'ornementation chez nous, l'Elanthus altissima, il est dans le livre.
Ouais.
L'élante, lui, c'est extraordinaire. Il a une vitesse de croissance extraordinaire.
Ouais. Moi, si j'avais pas lu votre livre, j'aurais répondu à cette question. Le bambou, par exemple. Mais le bambou n'est pas un arbre.
Alors voilà, c'est toujours pareil. C'est qu'est-ce qu'on définit comme étant un arbre ? Un bambou, c'est une plante très élevée. Quand on est au pied d'un bambou, dans une bambouserie, on a quand même l'impression de se balader dans une forêt. Hein.
C'est vrai.
Donc pourquoi pas, Mathieu ? Ça dépend de ce qu'on met derrière la définition du mot arbre.
Eh bien, allons-y. Alors, c'est quoi un arbre ? C'est la première question que vous posez dans le livre, d'ailleurs.
C'est ça, oui.
Il y a plein de tiroirs pour y répondre.
Oui, alors, je me suis dit, finalement, avant de faire un livre sur les arbres, de quoi on parle ? Donc, qu'est-ce que c'est qu'un arbre ?
Alors, allons-y.
Alors,
première réponse,
c'est la réponse un petit peu rigoriste du botaniste qui va dire « L'arbre est une plante qui remplie de bois, qui possède un seul tronc unique, élevé à plus de 7 mètres de haut, et qui a une longévité importante. » Voilà, j'ai à peu près fait le tour, bois, le tronc, l'élévation et la longévité. Et là, je me suis amusée à reprendre ces quatre critères et à me dire, est-ce que ça marche pour tous les arbres, du moins ceux qu'on pense être des arbres. Et c'est rigolo parce qu'en fait, à chaque critère, il y a des contre-exemples.
Oui, bien sûr.
Ouais. Donc, par exemple,
sur
l'élévation, donc effectivement, plus de 7 mètres de haut. Donc, ça voudrait dire qu'un jeune arbre qui n'a pas atteint 7 mètres de haut, c'est pas un arbre.
Non, c'est ça.
Donc, ça me gêne un peu.
Et parce pour tous ceux qui sont à l'ombre des. Voilà, c'est ça.
Voilà, tous ceux qui poussent à l'ombre dans les futaies, qui attendent leur chance, qui attendent une trouée de lumière, qui parfois même sont plus âgés que ceux qui sont au-dessus d'eux, parce qu'ils ont une croissance très très lente, eh bien ceux-là alors ne seraient pas des arbres.
Un pommier, par exemple, ce ne sera pas un arbre.
Pommier, voilà, alors posons-nous la question. S'il dépasse les 7 mètres de haut, il y a des chances quand même, si vous ne le taillez pas trop, on pourra dire que c'est un arbre. Une aubépine, c'est pareil, on peut se poser la question. On est embêté avec cette élévation.
C'est vrai. Et l'histoire du tronc, alors ?
L'histoire
du tronc.
Un seul tronc. Donc effectivement, si un arbre se développe et qu'on le laisse se développer dans des conditions idéales, il va mettre en place un tronc unique et toutes ses branches basses vont s'auto-élaguer. Mais si cet arbre il rencontre des accidents dans la vie, si un coup de vent brise son tronc, si une tronçonneuse passe par là, eh bien il va repartir, il va repousser, tel le phénix de ses cendres. Il va redonner un bouquet de troncs. Donc là aussi dans le livre, il y a un exemple d'un magnifique châtaignier qui est juste au pied de ma maison, Mathieu.
Oui.
Et qui est, on voit, c'est un bouquet d'une dizaine de troncs, et pourtant c'est un seul arbre.
Il y a des très belles photos, et la plupart, beaucoup ont été prises autour de chez vous, c'est-à-dire
le massif central. Mon kilomètre de confinement. J'ai eu de la chance, parce que j'ai vu pas mal d'arbres.
C'est vrai.
Une question de Vincent sur un arbre que j'adore personnellement, et qui a été taillé chez moi d'une façon absolument affreuse, et Vincent voudrait savoir s'il faut tailler les tilleuls.
Alors, moi je ne suis pas spécialiste de la taille, mais j'ai bien compris en lisant tous les collègues arboristes et lagueurs qui disent « un arbre », et Francis Allais le dit aussi, « un arbre, ça ne se taille pas ».
On lui fout la paix.
On lui fout la paix. Alors évidemment, quand j'ai dit ça, il y a des problèmes en ville, des problèmes de sécurité, on ne peut pas laisser un arbre avec des branches qui risqueraient de tomber.
C'est vrai.
Mais... donc évidemment on va aller tailler, mais quand on va tailler le moins possible.
Et en zone rurale, on fait rien du tout. C'est pas comme les cheveux, il faut les couper de temps en temps, ça va faire repartir.
Ça dépend. Il y a aussi des pratiques où on taille les arbres. Par exemple, là, justement, autour de chez moi, on appelle ça le pays des frênes. Et là, tous les frênes sont taillés en têtards. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un arbre têtard ? C'est un arbre qu'on a coupé à une certaine hauteur et qu'on recoupe tous les 7, 8, 10 ans pour recouper les branches qui repoussent de la tête. Donc, ça fait un arbre un peu déformé. Comme une sorte de têtard, si vous voulez. Donc là, évidemment, ça, ce sont des arbres extrêmement taillés. Mais c'est utilitaire, on utilise le bois.
Catherine Laine, vous êtes l'invitée de La Terre au Carré, dans la peau d'un arbre. Ça paraît chez Belin, secret et mystère des géants qui nous entourent. Mais il n'y a pas que des géants, c'est
mais
ce
non,
que vous venez
nous
dire.
Voilà.
C'est un contre-exemple de votre propre titre. Et on en parle dans un instant avec d'autres questions des auditeurs.
la cucaracha, sacrée bestiole contre la, fais un pactole contre la, au gré du vent, du haut du mât, c'est un rat de marée que voilà. Savoir qu'une tempête va déferler sur la mer boire de vos dégâts. Tonnerre de Dieu, c'est Dionysos.
Béni ma chère, béni mes os.
Tonnerre de Dieu, toi Dionysos.
Béni ma chère, béni mes os. Aïe, bonne et capodica. Chante nos joies et nos folies. Aïe, bonne et capodica. Tu es l'étoile de nos nuits. Aïe, bonne et capodica. Brûle mon cœur et mes soucis. Il sera toujours midi sous le soleil de Boréa.
Il doit rester.
Que tu crois, on abat toujours les arbres. On dit qu'on les conserverait sous un prétexte quelconque. En une heure, hop, on les abat, ni vu ni connu. Il y a toujours une bonne raison. Les accès, les canalisations, les lignes électriques, la vue qu'il bouge, comme si la plus belle vue n'était pas celle d'un arbre.
Mais même si cet arbre reste, comme je l'espère, il est vieux, on sera obligé de l'abattre.
Eh bien, un autre le remplacera. Si on faisait comme autrefois, on prévoirait de planter les arbres à l'avance, pour les générations futures.
Voilà, Catherine Laine, un titre de film avec arbre dedans, ça vous dit quelque chose ?
Eh ben, j'ai reconnu Fabrice Luchini.
Oui,
mais
bravo.
Je me demandais justement de quel film il s'agit.
Éric Rohmer, L'arbre, le maire et la médiathèque. Voilà, effectivement, avec Fabrice Luchini pour illustrer votre ouvrage Dans la peau d'un arbre chez.
Ça me fait plaisir.
Chez Belin. Alors, la longévité, l'âge de l'arbre, ça c'est toujours quelque chose qui nous fascine d'ailleurs. Hein.
Oui, parce que en général, enfin, il y a beaucoup d'arbres qui vivent beaucoup plus longtemps que nous. Donc là, ça nous fascine.
C'est moins qu'on puisse dire. Ouais.
C'est le moins qu'on puisse dire. Donc, surtout pour un être qui semble tellement immobile, tellement permanent dans notre paysage, c'est ça qui fascine aussi.
Ouais. Il y a une petite clé justement pour voir les
une
différents
sorte d'escargot,
âges.
Voilà.
Et c'est le boulot qui ne vit pas très longtemps.
Non, ça vit pas très longtemps.
Oui, j'étais surpris, 60 ans à peu près.
Un tremble, oui, c'est ça, voilà, à peu près.
Et un olivier, alors là, c'est l'extrême inverse.
Ça peut effectivement atteindre là plusieurs millénaires.
Mais donc, un arbre meurt de sa belle mort, c'est-à-dire qu'un boulot à 60 ans, il lui arrive quoi? D'un coup, il ne pousse plus et c'est fini?
Alors, effectivement, un arbre, ça se développe avec des phases de développement, comme chez nous, où on a la petite enfance, l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte, etc. Donc, pour un arbre, c'est pareil. On peut identifier des phases de développement. Et durant tout le développement de cet arbre, ce qui est formidable, c'est qu'il grandit tout le temps. Un arbre, ça se construit toute sa vie, même si vers la fin, vers le déclin, ça ralentit. Mais en fait, chaque printemps, là, j'ai traversé Paris... J'ai vu que tous les bourgeons s'ouvraient, c'est le renouveau, c'est toutes les branches qui poussent là en ce moment. Et donc les arbres font tous ça chez nous au printemps, au retour de la belle saison. Et donc cette construction, C'est une des explications, d'ailleurs, de la longévité des arbres, puisqu'il y a une jeunesse qui reprend à chaque printemps et qui se...
Mais il y a quoi? Il y a des cellules souches, justement, qui expliqueraient cette jouvence permanente?
Il y a des cellules souches qui restent en permanence dans les bourgeons. Ces bourgeons qui sont construits en été par l'arbre et qui passent tout l'hiver sur les branches. Là, souvent, les gens disent, en ce moment, je vois, ça y est, les bourgeons sont arrivés. Non, ils sont pas arrivés. Ils étaient là depuis l'été d'avant, depuis l'été dernier, puisque l'arbre les a construits l'été dernier, il est prévoyant, et ils ont dormi tout l'hiver jusqu'au printemps, là, actuellement, où ils s'ouvrent.
Mais donc, quand ils meurent, il se passe quoi, alors?
Alors, la mort d'un arbre, donc, effectivement, c'est normalement la mort de sa belle mort, comme vous dites. C'est-à-dire qu'un arbre va, comme il continue à se construire, à un moment, il va atteindre de telles dimensions que, mécaniquement parlant, il va être fragilisé face au vent, face au poids de ses branches. Donc, il va être beaucoup plus fragile. Les branches, en devenant énormes, sont moins bien alimentées en eau, donc elles se dessèchent. C'est souvent qu'on voit le fait d'un arbre qui se dessèche, parce que finalement la sève n'arrive plus jusqu'en haut. Donc tout cela fait qu'il va se casser d'un côté, il va être fragilisé face au vent, etc. D'autre part, son immunité, sa capacité à se défendre contre les pathogènes, contre les agresseurs, les herbivores, les bactéries, enfin tout ce qui l'agresse, diminue avec le temps.
Il y a un système immunitaire de l'arbre ou pas?
J'ai un peu exagéré. On n'utilise pas ce mot-là encore qu'on pourrait. Enfin, immunité végétale, ça se dit.
Ouais.
Mais il n'y a pas de cellules spécialisées dans la veille immunitaire de l'arbre. Comme pour toutes les plantes, ce sont toutes les cellules qui sont capables de se défendre, en fait. Chez l'arbre, le maître mot, c'est diffus. Donc la défense est diffuse, les sens de l'arbre sont diffus par rapport à nous.
Alors j'ai bien compris qu'il y avait des problèmes mécaniques liés à la vieillesse d'un arbre, mais est-ce que par exemple la sève, la production de sève reste la même jusqu'à la fin de la vie de l'arbre ou pas?
Alors la production de sève,
ça rouille un petit
peu. Vous parlez de la sève sucrée,
oui,
Mathieu, la sève élaborée, celle qui est fabriquée par les feuilles. Donc en fait, la quantité de sève sucrée va dépendre du nombre de feuilles. Donc l'arbre grandit et élargit sa ramure à de plus en plus de feuilles jusqu'à ce qu'il entame son déclin où les branches se dessèchent et où la surface foliaire va se réduire petit à petit avec le temps. Donc il va faire de moins en moins de sève, en fait.
Et pourquoi il y a des arbres qui peuvent vivre plus de 1000 ans?
Ouais, alors là, c'est une histoire de génétique, et c'est ce qui fait la diversité de ces espèces. Certaines vivent peu longtemps, et d'autres très longtemps. Et la différence, c'est que celles qui vivent peu longtemps, souvent, ce sont celles qui sont les pionnières, j'en parlais tout à l'heure, c'est-à-dire ce sont celles qui vont s'installer les premières dans les terrains ouverts, les bouleaux, les peupliers, les saules. Voilà, toutes ces arbres-là, qui sont des arbres qui aiment la lumière et qui poussent très vite, vont occuper le terrain très rapidement. Après viendront ceux qui vivent très longtemps et qui vont pousser à l'ombre de ces premiers-là.
Et l'arbre le plus âgé au monde, alors c'est d'ailleurs sujet à discussion, mais ce serait dans l'Utah, c'est le pando aux États-Unis. C'est une forêt de peupliers en réalité.
Ouais. Donc là, on est souvent, c'est rigolo ça, l'homme, on est comme ça, on est tout le temps en train de chercher les records.
Ouais, c'est vrai.
Alors moi, ça m'intéresse pas beaucoup les records. En même temps, j'en ai mis un peu dans le livre parce qu'on les lit effectivement. Mais là, l'intérêt, c'est de se demander, pando, cette colonie de peupliers que vous évoquez, est-ce que c'est vraiment un arbre ou est-ce que ce sont des clones? Donc une colonie d'une souche originelle. Donc ça, on ne sait pas bien.
Qui aurait 80 000 ans,
en l'occurrence. Qui aurait 80 000 ans, c'est-à-dire que le peuplier originel aurait germé il y a 80 000 ans. Bon, je ne sais pas si j'y crois beaucoup. Il y a d'ailleurs des travaux récents qui ont montré que tous ces arbres-là n'ont pas le même patrimoine génétique. Donc en fait, ce n'est pas vraiment
c'est
un clone.
Donc ce n'est pas le même.
Non.
Ce n'est pas le même.
Ce n'est pas le même.
Bon.
Isabelle voudrait savoir sur franceinter.fr dans quelle région de France il y a le plus d'arbres sauvages non cultivés?
Ah, c'est une très belle question, ça, parce que des arbres sauvages non cultivés. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, des arbres cultivés?
Je pense je pense qu'elle pense aux plantations.
Elle pense aux plantations monospécifiques, je pense. Parce qu'après, nos forêts mixtes, avec des essences mélangées, sont quand même des forêts cultivées. C'est-à-dire qu'on on laisse faire la régénération naturelle, mais on prélève des arbres, on choisit les arbres qu'on prélève pour faire de la lumière pour ceux qui poussent, etc.
On a des petits bouts de forêt primaire quand même, même en France.
Non.
Des tout petits bouts. Francis Allais nous le disait, il y a des petits confettis dans les Vosges,
Francis,
par exemple.
Peut-être le sait. Oui, peut-être il le sait bien mieux que moi. Les forêts primaires sont plutôt les forêts tropicales.
Mais c'est des toutes petites surfaces.
Bien sûr. Il en reste en Europe aussi, des surfaces plus importantes. En Roumanie, par exemple.
Hélène voudrait savoir s'il y a en France encore des arbres dont l'espèce est en danger et qui ne peuvent pas être abattus.
Je ne comprends pas bien la question.
Est-ce qu'il y a des espèces, finalement, des espèces d'arbres protégés en France, tout simplement, qu'on ne peut pas abattre ?
Ah, oui, oui, il y a des espèces d'arbres inscrits sur la liste rouge, on l'appelle la liste rouge de protection nationale. Et par exemple, je pense aux ormes. Les ormes sont des arbres qui ont beaucoup souffert de maladies dans les années 70-80, la graphiose de l'orme qui a décimé les populations d'ormes en France. Et il y en a un en particulier, l'orme lisse, qui pousse en bord de rivière, qui lui est vraiment protégé au niveau national parce qu'il en reste très peu. Mmh.
Catherine, là en ce moment, donc le printemps qui est là, c'est vraiment la relance de la machine.
Oui.
Un petit mot sur les gelées justement qui ont causé des dégâts considérables en France et qui ont causé aussi des tragédies. Les arbres aussi ont payé un lourd tribut à ces gelées.
Alors,
ou pas ?
Oui, bien sûr, et en particulier donc ce qu'on entend, c'est la vigne beaucoup, oui. Mais les fruitiers, hein, les fruitiers oui. En général. Et le problème, c'est toujours le réchauffement climatique, c'est-à-dire que les dates d'ouverture des bourgeons avancent.
Oui.
Et elles avancent beaucoup depuis quelques dizaines d'années. Donc on gagne 3 semaines, 1 mois. Mais le problème, c'est que débourrant mi-mars, les dernières gelées sont toujours là, enfin sont toujours susceptibles d'arriver. Et quand les fleurs sont sorties, une fleur, c'est très fragile. Donc le moindre coup de gel, la fleur meurt. Et si la fleur meurt, il n'y a pas de fruit.
Donc il y a eu beaucoup de dégâts, effectivement,
sur
les arbres.
Il y a eu beaucoup de dégâts. Il y a eu sur les vignes aussi, j'ai lu certains endroits où c'est la moitié de la récolte qui est perdue.
Catherine, vous restez avec nous. Dans la peau d'un arbre, c'est ce livre qui paraît chez Belin. Et c'est la première des 2 émissions que nous consacrons à ce sujet.
France Inter. La Terre au carré.
14h30, Camille Passauvert et Camille Cronier aujourd'hui. Un sujet méconnu, celui du transport des chevaux vivants pour être consommés au Japon.
Oui, des dizaines de milliers de chevaux envoyés chaque année par avion direction l'Empire du Soleil Levant où leur viande est ultra appréciée et prisée, m'a expliqué Adeline Colonna de l'ONG Wellfarm.
C'est un mets qui est très recherché, ça se mange cru, donc en sushi, en sashimi. Ça se mange surtout au restaurant. Eux, c'est un petit peu comme le foie gras français en fait. C'est vraiment un mets de luxe, ouais.
Des sushis de cheval à 200 ou 300 euros le kilo. Les animaux sont donc envoyés vivants pour que la viande soit la plus fraîche possible et engraissés au Japon avant d'être abattus. Le principal pays fournisseur, c'est le Canada à 71%. Il en envoie environ 6 000 par an dans des conditions inhumaines d'après certaines associations appuyées par des témoignages comme celui de cette vétérinaire qui travaillait précisément sur ces trajets et raconte ça à la chaîne Global News. C'était horrifiant, il les entassait comme dans une boîte de sardines. Et Adeline Colonna de l'association de protection des animaux Wellfarm continue la description.
Ils sont transportés par 3 ou 4 dans des caisses en bois qui sont recouvertes d'un filet. N'importe qui de sensé mettrait un seul cheval là-dedans. En fait, eux, ils en mettent 3, sachant qu'en plus c'est des chevaux de trait. Donc ils ne peuvent pas se retourner. Ils ne peuvent pas se coucher pendant les 22 heures que dure le vol.
Des conditions de transport ultra stressantes, disent les ONG, et fatigantes parce que les chevaux n'ont pas la place de se coucher, sans parler de leur traitement à l'arrivée au Japon. Là, c'est la Belge Stéphanie Gislin, chef de projet commerce international à la Fédération européenne des associations de protection animale, qui détaille.
On les envoie de l'autre côté du monde pour qu'ils passent encore 6 mois sur une ferme d'engraissement, donc c'est-à-dire pas vraiment les beaux pâturages. La situation sur ces fermes d'engraissement a été dénoncée par nos collègues japonais qui travaillent sur ces questions-là. Le Japon a les standards de bien-être animal, je crois, les plus bas de l'OCDE.
Et pourquoi l'Europe s'en mêle-t-elle ? Parce que derrière le Canada, le deuxième pays exportateur de chevaux vivants, c'est nous, la France. 959 chevaux envoyés en 2019. La moyenne annuelle, c'est 800 depuis que le Japon nous a sollicités en 2016.
Il se trouve que nos 9 races de chevaux de trait français, elles correspondent bien à leur attente. C'est-à-dire qu'ils ont besoin d'un fort potentiel d'engraissement parce que les Japonais mangent une viande de cheval très très fortement engraissée. On a une bonne traçabilité et puis les vaches françaises ont une bonne réputation dans le monde en fait.
Alors vous ne le savez peut-être pas, mais 95% des chevaux de trait français sont destinés à la boucherie. Sinon, c'est pour le labour ou le transport en carriole par exemple.
Sans la boucherie, on n'a plus de chevaux de trait en France depuis très longtemps.
Voilà, sans la boucherie, il n'y a plus de chevaux de trait en France. Il n'y aurait plus de chevaux de trait en France depuis très longtemps. Il sait de quoi il parle, ce monsieur dont j'ai déformé la voix parce que je l'ai enregistré en mode pirate, parce que je n'ai pas réussi à joindre la Société française des équités de travail. Il sait de quoi il parle puisqu'il est éleveur de chevaux de trait, dont la filière allait mal jusqu'à il y a peu. Pourquoi ? Parce que la consommation de viande de chevaline s'est réduite de 75% en France. C'est aujourd'hui 0,1% du total. Et que l'Italie, vers laquelle on exportait principalement, s'est tournée vers les chevaux polonais ou néerlandais moins chers. Du coup, le Japon est arrivé à point nommé.
L'arrivée du Japon sur le marché européen, ça a doublé le prix du cheval de trait.
Donc c'est le Japon qui a sauvé la filière.
Ah, complètement. Sans le Japon, il n'y aurait plus de chevaux de trait là aujourd'hui.
Alors que dit cet éleveur des conditions de transport en avion, Camille?
Eh ben, il dit que c'est n'importe quoi et il argumente.
On ne fait pas du poulet à 2 euros. On fait un produit très très haut de gamme. Il se traite comme tel. Ils sont exactement dans les mêmes conditions que les chevaux qui sont aux Jeux Olympiques à Tokyo. C'est des chevaux qui valent des fortunes. Je vous imagine bien que faire voyager des chevaux vivants pour aller au Japon, c'est très très cher. C'est très onéreux. Donc c'est du très très haut de gamme. Alors quand on dit qu'on stresse des chevaux, qu'on les bat et qu'ils sont blessés, en fait, ça, c'est pas valable pour un cheval qui vaut beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent.
Entre 70 000 et 100 000 euros le cheval. Et sur le fait qu'il ne puisse pas se coucher pendant le trajet, voici sa réponse.
Pour un équidé, rester debout, c'est quand même pas le sujet. Hein. Ça se couche pas tous les jours au cheval. Mais ça dort debout au cheval. En fait, non, mais le problème, c'est l'anthropomorphisme, si vous voulez.
Voilà, le problème, c'est l'anthropomorphisme. Les associations demandent à pouvoir vérifier dans les 8 avions qui partent chaque année de Brest, du Sud-Ouest, le bassin de l'élevage, ou d'un des aéroports agréés pour le transport en France. Et Stéphanie Gislin, à Bruxelles, résume ce qui les dérange.
Ce que nous, on dénonce, c'est l'absurdité, en fait, de ce commerce. On pense pas que ce soit extrêmement positif de créer toute une filière sur de la souffrance, même si ça crée certains bénéfices. Alors, il faudrait réfléchir à comment on permet à ces producteurs de s'en sortir, d'avoir une vie décente avec ce qu'ils font et peut-être pas en utilisant ce type de commerce.
Commerce totalement légal, je le précise. Alors, je vous disais que la consommation en France avait baissé, donc pas de marché suffisamment rentable pour les éleveurs, d'autant que les 9% de Français qui en mangent de la viande de cheval aiment la viande mature, c'est-à-dire la viande rouge qu'on trouve plutôt du côté des chevaux qu'on appelle réformés, se tomber dans les courses par exemple. Autre absurdité, donc 9000 tonnes de viande de cheval sont importées chaque année, notamment d'Argentine ou d'Australie, qu'on retrouve dans les rayons de supermarchés comme Cora, Auchan, Leclerc, Carrefour, Intermarché ou Grandfray. Et Wellfarm sortira demain une enquête vidéo sur les conditions dans lesquelles sont élevés et abattus ces chevaux. Je vous préviens, c'est pas très beau à voir. Images qui seront publiées d'abord par Le Parisien, Wellfarm évidemment, l'ONG Wellfarm, Le Parisien et Hugo Clément.
Voilà, Camille passe au vert, c'est à réécouter sur franceinter.fr et le sujet est consternant. Allez, on se retrouve dans un instant, on se changera les idées, on reviendra aux arbres. Le dossier de l'émission.
Call me a fool. Call me a fool. Play hard for lonely heart that's lonely to the bone. Thought I had it under control, yeah. But it's too me grab my soul, yeah. Heard it pounding, knocking on the door, yeah. When I knew I had to let it go. Don't you know, is it I could help it? Don't you know, is it I could forget? But this new love is so strong that your power keep me holding on.
Come here, fool.
Call Me a Fool, c'était Valérie Jones.
La Terre au carré, le magazine Science et Environnement. Mathieu Vidard sur France Inter.
Chaque arbre est un rendez-vous avec l'histoire. Lui, il a l'avantage d'avoir rencontré l'histoire deux fois. La première fois en étant planté par l'empereur Napoléon Ier. La deuxième fois, malheureusement, c'est quand il a rencontré la tempête de 99. Quand on l'a vu au sol, le premier réflexe, ça a été de se dire qu'il était fini. Il s'est accroché fermement et la sève, en fait, continue à circuler dans ce qui lui reste d'écorce. Et donc, on lui a mis une béquille, celle-ci, qui lui permet de continuer à vivre.
Voilà, son nom est Sylvain Parot, gestionnaire du patrimoine arboré du parc du château de Versailles. C'est vrai que l'année 99, cette tempête, c'était une émotion considérable dans le pays.
Hein. Oui.
Quand on a vu ces forêts entières couchées, voilà, comme dans les Vosges, on en parlait tout à l'heure.
Tout à fait.
Et pas seulement, c'était vraiment...
Et beaucoup de résineux qui sont tombés à Noël, parce que la tempête était une tempête hivernale, ouais. Alors que les feuillus n'avaient plus de feuilles. Les résineux qui gardent leurs aiguilles offraient une résistance, enfin comment dire, une voile au vent, qui fait qu'ils ont basculé plus facilement.
Catherine Laine, avant de passer aux questions des auditeurs, le tout premier arbre dans l'histoire de l'évolution, alors, c'est daté de quand ?
Alors, on pense, hein, on retrouve des traces fossiles, environ moins 395 millions d'années.
D'accord.
Alors, ça ne veut pas dire grand-chose, parce que c'est des temps, ce qu'on appelle des temps géologiques. Et donc, en gros, quand on rapporte le temps de la Terre à 24 heures, le premier arbre, on est à 22h24.
Oui.
Donc on est presque à la fin de la journée, quoi.
Ouais.
Ça veut dire que pour arriver à inventer l'arbre, il a fallu que la vie invente beaucoup de choses avant, depuis l'origine de la vie, 4 heures du matin, jusqu'à 22h24, naissance des premiers arbres.
Mais les tout premiers, c'était des toutes petites choses, j'imagine, non ?
Alors, effectivement, donc, déjà pour faire un arbre, il faut que la vie sorte de l'eau. Donc la vie qui sort de l'eau, on est à 21h52, hein, voilà, donc à peu près 10 heures du soir. Et les premières plantes qui s'installent sur les terres émergées, ce sont des plantes rampantes, ce sont des plantes très basses, à peine quelques centimètres de haut. Quelque chose qui ressemblerait un petit peu à nos mousses, actuellement.
Mais alors une forêt, la première vraie forêt telle qu'on l'imagine aujourd'hui, elle sera arrivée quand alors?
Donc on date les premières forêts du Dévonien carbonifère, hein, ces états géologiques, à peu près il y a moins 395, moins 370 millions d'années. Ce sont ces premiers arbres-là qui ont formé notre charbon que nous brûlons, que nous finissons de brûler actuellement. Et donc tout ce CO2 qui avait été capturé par ces arbres il y a 400 millions d'années, 350 millions d'années, en ce moment, on relargue
dans l'atmosphère.
C'était carbonifère. Dans quelle zone de la planète les premières fois ?
Alors, c'était des zones à climat tropical. C'était beaucoup des forêts très humides où il faisait chaud.
Dans le Cantal, par exemple, il faisait chaud à l'époque.
À Lille, hein, autour de Lille, le bassin minier, voilà, ce sont des forêts du carbonifère.
Et c'était vraiment les climats tropicaux, effectivement. Camille, plein de questions des auditeurs.
Oui, Gilles voudrait savoir si les arbres sont en compétition les uns avec les autres.
Alors oui, c'est une très belle question ça aussi, et c'est le propre de la vie, si j'ose dire. Donc ça ne concerne pas que les arbres, mais les espèces sont en compétition les unes avec les autres pour les ressources du milieu, que ce soit l'accès à la lumière pour les arbres, l'accès à l'eau, aux éléments minéraux. Donc oui, les arbres sont en compétition entre eux. Ce qui n'interdit pas aussi
l'entraide.
Qu'il y ait, voilà.
Ah. Alors justement, une question
qu'il
sur l'entraide.
Qu'il y ait des liens ou des associations entre les espèces, entre certains êtres. Il n'y a pas de but là derrière, Mathieu. Mais effectivement, les arbres, par exemple, vivent en symbiose, c'est-à-dire une vie à bénéfice réciproque avec des champignons au niveau de leurs racines.
Mais on a une vraie question sur l'entraide de Thomas sur franceinter.fr qui demande s'il est exact que les cyprès peuvent avertir leurs congénères de l'arrivée d'un incendie afin qu'ils relâchent leur substance inflammable et ne brûlent pas.
Alors, je ne sais pas par quel bout prendre cette question. Le coup de sifflet du cyprès. Donc, ce qui est vrai là-dedans, dans cette histoire un petit peu racontée de manière un peu féerique, c'est que les arbres émettent des substances chimiques dans l'atmosphère. Que ce soit les arbres feuillus, que ce soit les résineux. Vous vous promenez dans une forêt, vous sentez bien l'odeur de la forêt, c'est l'odeur du sol, mais c'est aussi l'odeur des feuilles, c'est aussi l'odeur des arbres. Ces substances, par exemple chez les conifères, ces substances, dans certains cas, sont des substances hautement inflammables qui vont effectivement favoriser les départs de feu. Et par exemple, les pins méditerranéens, les pins d'Alep, ce sont des pins entre guillemets, qui ont été sélectionnés au cours de l'évolution pour brûler. Parce que et donc les substances qui sont émises dans l'air vont attiser le feu naissant pour en faire un grand incendie qui va passer sur la pinède, permettre l'ouverture des cônes et la germination des nouvelles graines dans la cendre, et donc renouveler complètement l'écosystème.
Mais donc, est-ce qu'ils s'avertissent justement?
Alors voilà, donc la deuxième partie de la question, c'est ils s'avertissent. Donc là déjà, ne serait-ce que dans l'idée d'un arbre qui avertit un autre arbre, quel que soit le danger ou quel que soit ce qu'il a à lui dire, bon, il faudrait qu'on se pose un moment pour en discuter. Parce que ce qu'on a montré scientifiquement, c'est que les plantes émettent des substances qui peuvent être reconnues par une plante voisine, qui peuvent déclencher une réponse chez la plante voisine. On a donc dit, elles communiquent entre elles. Puis il y a d'autres chercheurs qui ont dit, bah oui, mais attention, ça c'est une interprétation. Une autre interprétation, c'est peut-être que la plante qui émet ses substances dans l'air, c'est pour ses propres feuilles. Elle se met en état d'alerte générale pour lutter contre l'herbivore qui la grignote. Et puis, ben, par accident, les voisines entendent le message et le reçoivent et elles aussi se mettent en alerte.
Donc
c'est peut-être pas de la, c'est peut-être pas de la communication. Enfin, c'est une communication en ce sens qu'une plante émet un message qui va déclencher quelque chose chez la voisine, mais il n'y a rien d'intentionnel.
Voilà. C'est de la chimie.
C'est de la chimie,
tout simplement, pour être purement scientifique. Allez Catherine Laine, on vous retrouve dans un instant, il y aura d'autres questions, mais pour le moment, 14h45, c'est le moment de repartir du côté du Cosmé-Jean, ce plateau calcaire perché à plus de 1000 mètres d'altitude dans le parc naturel des Cévennes, avec cette série de reportages de Maxime Carcel, qui aujourd'hui suit le berger Théophile Navec et son troupeau de brebis, portrait d'un écologiste catholique et décroissant.
Donc tous les matins, c'est le même rituel.
Ouais. Cet été, on les sortait la nuit. Et là, depuis début septembre, elles sortent le jour. Viens. Alors reste avec moi. Sinon, ils ne sauront pas qui c'est qu'il faut suivre.
D'accord, sinon il y aura deux bergers et ça sera le... Ouais. Donc là, on marche sur la route avec les... Il y a combien? 260 bêtes derrière nous qui nous suivent.
280. 60 jeunes et 220 adultes. Voilà.
Donc on va marcher comme ça 2 km avec...
Avec ce bruit.
Avec ce bruit et 280 moutons qui nous suivent à la queue leu leu.
Je vais les garder 2 heures là. Après, je vais les mettre dans un parc. Et ce soir, à 5h, j'irai les ressortir. Je les regarderai 2 heures et je remonte.
Elles vous suivent au doigt et à l'œil quasiment.
Parce qu'il y a le chien.
Ah,
s'il n'y a pas le chien, au bout de 300 mètres, elles le savent et elles s'envoient un texto et elles ne me suivent plus.
D'accord, donc le vrai maître d'orchestre, c'est le chien.
Ben c'est, ça marche en paire. Le chien et le berger. Parce que le chien, il les pousse vers moi. Donc il faut quand même que je sois là pour les guider. C'est pour ça qu'il faut que tu restes à côté de moi. Parce que sinon, elles ne sauront plus quel est le berger.
Vous êtes ici depuis combien de temps?
On est arrivé en 2002, ma femme et moi, on avait une fille. Et en 2003, on a repris la ferme à notre nom. Assez tôt, oui, à l'adolescence, j'ai eu envie d'être paysan, quoi.
Ah, vos parents, ils n'étaient pas dans la...
Non, mes parents n'étaient pas paysans.
Quand vous retrouvez des morceaux de plastique comme ça, tous les jours, vous les ramassez, vous les...
Bah oui, là, au bord de la route, on en trouve pas mal, des bouteilles, des trucs comme ça.
Donc là, les brebis sont posées pendant...
Elles sont posées, c'est un bien grand mot, parce que les brebis, ça fait que bouger. Donc là, elles mangent, mais en avançant. Donc en fait, nous, on avance aussi.
Il y a un de vos enfants qui pense reprendre l'affaire?
Et non, on a 5 enfants. Mais pour l'instant, il n'y a pas de... L'aîné a 19 ans, il y a 2 filles et puis 3 garçons. Mais pour l'instant, il n'y en a aucun qui se destine à l'agriculture. On n'est pas fils d'agriculteur, c'est une chance. On n'est pas propriétaire. On n'a pas le poids de devoir transmettre la terre et je pense que c'est bien.
Ah ouais?
Oui. Parce que c'est quand même compliqué la transmission. Et il y a aussi pas mal de gens qui ont été paysans parce qu'il y avait la ferme dans la famille et qu'il fallait que prendre la suite, quoi. Dans notre façon de travailler, on a cherché à réduire tous les investissements. On ne doit plus rien aux banquiers. On a peu de machines, mais assez pour travailler. Et ça, c'est une grande liberté. Et qui nous permet aussi de travailler en cohérence avec notre vision de l'écologie, notamment.
Avec le dérèglement climatique.
Voilà, nous ici, on le sent, notamment par les hivers moins froids, par des sécheresses peut-être plus longues. Et bien là, il y a encore de l'herbe dans cette forêt. Et bien j'y vais, et c'est quelque chose qui est là, qui ne coûte rien, et qui nous permet d'encaisser des coûts comme la sécheresse, quoi. Après, malheureusement, tout le monde n'est pas dans cette philosophie. Et on en voit beaucoup aujourd'hui qui ont les granges pas bien pleines. Et puis qui achètent du foin alors que là, ben, y a plein d'herbes sur le Causse qui n'est pas pâturé.
Finalement, le Causse vous offre une...
Le Causse est riche. quand c'est riche. Et à ce propos, je suis croyant, ma femme aussi, et j'ai lu Laudato Si' il n'y a pas très longtemps.
Qu'est-ce que c'est Laudato Si'?
Laudato Si', c'est l'encyclique du pape qui a maintenant 5 ans, je crois, au sujet de l'écologie. Prendre soin de la nature, prendre soin de son prochain, c'est deux choses indispensables et indissociables. Et on n'a pas le droit de faire l'un sans l'autre.
Les fous! Alors, viens ici au pied.
On manque de travail, je pense que... C'est peut-être un peu réactionnaire, mais je pense qu'on pourrait inviter et appeler plus de monde à travailler dans l'agriculture. Mais c'est vrai que cette production qui produirait moins, ça, à mon avis, en demandant plus de main-d'œuvre, c'est certainement pas un progrès très à la mode, mais je pense qu'elle permettrait à plus de monde de s'épanouir.
Vous êtes une sorte de décroissant.
Je pense, oui.
C'est bien.
Maxime Carcel signe donc ce reportage au Cosméjan. Demain, suite de ses pérégrinations dans les Cévennes autour du cheval de Prévalski. Et vous pouvez bien sûr réécouter ces reportages sur franceinter.fr.
Je me défile d'actualité. Ça fait bien longtemps que j'oublie tous mes rêves. Je perdrai ma vie à la gagner. Ça, je le sais. Que le temps, c'est de l'argent. Que je passe mon temps à le perdre. Oh, oh, oh. Là, je te sens plus sûr de moi. Si on peut rêver d'un monde meilleur, j'ai pas tué l'espoir qui brûle à l'intérieur. Réveille-moi si on peut rêver, rêver d'un monde meilleur, j'ai pas tué l'espoir qui brûle à l'intérieur.
On fait le voyage en solitaire, ça fait bien longtemps qu'on fait plus la paix. J'ai pas de crédit pour m'épargner. Ça, je le sais. Que je finis sur les dents. Un sourire aux lèvres. Oh, oh, oh. Là, je te sens plus sûr de moi. Oh, oh, oh. Quand je te sens plus sûr de toi.
Réveille-moi si on peut rêver d'un monde meilleur. J'ai pas tué l'espoir qui brûle à l'intérieur. Réveille-moi si on peut rêver, rêver d'un monde meilleur. J'ai pas tué l'espoir qui brûle à l'intérieur. Oh, 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 je te sens plus sûr de moi. Oh, 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 quand je te sens plus sûr de toi. Oh, 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 je te sens plus sûr de moi. Si on peut rêver d'un monde meilleur, j'ai pas tué l'espoir qui brûle à l'intérieur. Réveille-moi si on peut rêver, rêver d'un monde meilleur, j'ai pas tué l'espoir qui brûle à l'intérieur.
C'est votre chouchou ça, Camille Cronier,
ah,
en ce
j'aime
moment.
J'aime beaucoup Hervé, oui.
Et c'était Monde Meilleur sur France Inter, dans la Terre au Carré, avec Catherine Laine et ce livre Dans la peau d'un arbre chez Belin, préfacé par Francis Allais. Qu'est-ce qui se passe en ce moment donc avec le printemps, Catherine Laine? Faut relancer la machine, hein, c'est ce que vous dites, le maître mot du printemps, ça
oui.
pousse.
Ça pousse, et c'est ce qu'on voit là. Mais en fait, ça a commencé dans le secret des racines, et ça, ça se voit pas. Donc ça commence bien 3 semaines avant l'ouverture des bourgeons.
Mais la montée de sève, ça veut vraiment dire quelque chose en ce moment ou pas?
Alors oui, c'est vrai qu'on dit la montée de sève.
Ouais.
Donc, mais en fait, si elle monte, c'est qu'elle est descendue. On est d'accord, c'est logique ça. Mm-hmm. Sauf qu'en fait, elle descend pas vraiment, parce que ce qu'elle fait, c'est qu'elle ne circule plus dans l'arbre. À partir du moment où les feuilles tombent, il y a plus de circulation possible, puisque ce sont les feuilles qui sont le moteur de la montée de l'eau et qui sont aussi le moteur de la descente de la sève élaborée. Donc, quand il y a plus de feuilles à l'automne, il y a plus de sève qui peut circuler. Mais les tuyaux dans lesquels circule normalement l'eau et l'eau sucrée sont toujours pleins d'eau. sauf accident. Il peut y avoir des tuyaux vides, mais la plupart sont pleins d'eau. C'est d'ailleurs pour ça que l'arbre doit faire attention, entre guillemets, lutter contre le gel en hiver. Parce que si le gel le prend, et comme il est plein d'eau dans ses tuyaux, ça risque de faire des dégâts. Donc en fait, la sève, c'est pas vraiment qu'elle monte, mais ce qui monte, ce qui est sûr, c'est une espèce de vague sucrée dans le tuyau plein d'eau. Une sorte, moi, j'ai appelé ça comme une sorte de mascaré. Vous voyez ce que c'est le mascaré,
cette vague,
voilà, qui rentre dans l'estuaire et qui remonte le fleuve. Ben, c'est un petit peu cette image-là qu'il faut avoir en tête, c'est-à-dire une espèce de poussée par des sucres qui sont les sucres dans le bois, injectés dans les tuyaux, qui font un appel d'eau, et tout ça monte comme une vague de mascarée.
Et justement, Daniel voudrait savoir comment les arbres, et surtout les grands arbres, arrivent à irriguer les dernières feuilles tout en haut.
Ah, ça, c'est une super belle question, et il aura toutes les réponses
dans votre livre.
4. Non, parce que c'est assez long à expliquer, mais je dis que c'est une très très belle question, parce qu'en fait, les fontainiers de Florence se demandaient déjà comment faire pour monter de l'eau au-delà de 10 mètres. Et en fait, physiquement parlant, on peut pas pomper de l'eau au-delà de 10 mètres de haut. Et les arbres, qui sont décidément bien effrontés, ont réussi à défier les lois de la physique et à monter à plus de 100 mètres de haut.
20 secondes.
Ce sont les feuilles.
Très rapidement, Didier voudrait savoir si la vigne est un arbre.
Une liane. C'est une liane qui fait du bois, un peu comme le lierre.
Oui, c'est pas parce qu'il y a du bois que c'est un arbre, alors.
Voilà.
C'est ça. On se retrouvera la semaine prochaine, je crois, c'est même jeudi.
Oui, le 21.
Voilà, exactement, pour la suite et la fin de cette discussion, 21 avril, donc dans la Terre au Carré. En attendant, on peut découvrir Dans la peau d'un arbre chez Belin. Catherine Laine, à très bientôt donc.
Merci.
Merci beaucoup. On termine avec la chronique de reporter.
France Inter, la Terre au Carré.
Bonjour Alexandre Reza-Kokabi.
Bonjour Alexandre Reza.
Bonjour.
Alors cette semaine, vous nous parlez des aires d'accueil pour les gens du voyage qui seraient systématiquement situées dans un environnement pollué.
Oui, en effet Mathieu. Vous souvenez-vous de la nuit du 25 au 26 septembre 2019 quand un énorme incendie s'était déclenché dans l'usine Lubrizol à Rouen ? C'était sidérant. 10 000 tonnes de produits chimiques s'étaient répandues dans l'air, les sols et l'eau, couvrant la ville de Rouen d'une épaisse fumée noire. Eh bien figurez-vous qu'en première ligne de ce sinistre, il y avait des voyageurs. Les habitants de l'aire d'accueil de Petit-Quevilly. Une dizaine de familles vivent encore ici, à 400 mètres de l'usine, dans un endroit inhospitalier. Sans aucun confort, au milieu de nombreux sites Céveso. Le jour de l'incendie, les autorités les ont complètement oubliées. Elles n'ont pas été évacuées, ni mises à l'abri.
Et est-ce que le cas de l'aire d'accueil du Petit Quevilly est isolé ?
Non, loin de là, Camille. Et c'est ce que montre un inventaire réalisé par le juriste William Acker. Il a recensé partout en France les emplacements attribués aux voyageurs. Il a trouvé que systématiquement, les aires sont situées dans des environnements pollués, à proximité d'usines Céveso, d'autoroutes, de déchetteries. Elles se retrouvent reléguées à l'extérieur des villes, loin de tout service. Bref, invisibles. Alors pour reporter, je me suis rendu sur les aires d'accueil de Tremblay en France et Aulnay-sous-Bois. Elles étaient situées, là encore, dans des lieux indésirables. Au pied des pistes d'un aéroport, et pas n'importe lequel, celui de Roissy-Charles-de-Gaulle. Les caravanes des voyageurs tremblent même quand un avion décolle ou atterrit. Ils sont encagés entre des voies rapides et un crématorium, sous des lignes de tension, à côté des usines, et ça a des effets concrets sur leur santé. Beaucoup se plaignent par exemple de maux de tête récurrents. Certaines études disent même que les gens du voyage ont 15 ans d'espérance de vie en moins.
Alors Alexandre Reza, comment est-ce que c'est possible que justement ces voyageurs soient sans cesse assignés à des lieux pollués ?
Alors en France, le système des aires d'accueil est encadré par la loi Besson 2. Elle oblige les communes de plus de 5000 habitants à prévoir un terrain aménagé pour accueillir les voyageurs. Mais en contrepartie, elle leur permet aussi d'interdire le stationnement sur tout le reste du territoire. Résultat, les voyageurs ne peuvent pas s'échapper. Du moins les plus précaires, qui sont coincés dans des aires d'accueil mal situées, exposés à des polluants susceptibles de causer des maladies environnementales, comme le montre notamment la chercheuse Lise Foineau. Ce que je me demande, Mathieu, c'est jusqu'à quand cette situation va durer ? Combien de temps allons-nous encore accepter que des personnes vivent, respirent durant toute leur vie les gaz des pots d'échappement, le kérosène et les rejets des usines ?
Et qu'est-ce qu'on peut faire alors pour lutter contre ces discriminations ?
Certains voyageurs ont décidé de monter des collectifs pour faire changer les choses. Par exemple, le collectif de femmes d'Hélème Ronchin, près de Lille. Enfin, il faudrait une volonté politique de travailler sur la place du voyage en France pour qu'il ne soit plus appréhendé comme un mode de vie parasitaire. Quand un voyageur lutte pour son droit de circulation, il lutte au fond pour toutes les personnes qui vivent en habitat mobile léger et pour tous ceux qui veulent vivre autrement.
Merci beaucoup Alexandre Reza-Kokabi. On retrouve donc cet article sur le site de Reporter, reporter.net, le quotidien de l'écologie. On se dit à très bientôt.
Bon après-midi.
Merci, à vous aussi.